Salut la gang, bienvenue à ce 39e épisode de Femmes de fer. Je discute avec la blogueuse mode et beauté Josiane Konaté, également connue sous le nom de Petite and Bold. Josiane, c'est une maman de deux enfants, propriétaire de l'agence de contenu Curl Loulay et de la boutique en ligne Maison Petite and Bold qui met de l'avant l'art africain. Alors je me demande comment Josiane fait pour réussir à créer autant de contenu de qualité en plus de faire entendre sa voix dans des moments importants sur les médias sociaux et d'être capable de laisser un leg pour ses enfants. On a beaucoup, beaucoup de fou rire durant cette entrevue. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Josiane!
Allô Sophie!
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Je suis super contente qu'on ait le temps de se parler aujourd'hui parce que je pense que tu as un parcours vraiment fascinant, mais aussi mystérieux pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que je connais de toi, mais il y a beaucoup de choses que je me dis, comment elle est arrivée là? Comment elle a réussi à finalement faire sa niche, à prendre sa place sur les médias sociaux? Donc, Josiane, peut-être en quelques mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te décrirais qui tu es?
OK. Comme mon nom, déjà, c'est Josiane Konaté. Fait que je suis originaire du Burkina Faso, qui est un petit pays en Afrique de l'Ouest. Alors, fait que j'ai vraiment grandi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que je finisse le collège, qui correspond, je pense, au cégep ici. Quand on finit le collège, chez nous, la prochaine étape, c'est l'université. Mm-hmm. Fait que mon cher papa, il m'avait demandé où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller aux États-Unis? Ou est-ce que tu vas aller au Canada? Fait que déjà, je me sens super chanceuse que mes parents avaient déjà les moyens comme financiers pour nous envoyer à l'étranger pour étudier dans d'autres universités. Fait que j'étais vraiment super contente. Puis là, j'ai dit à mon père, comme les États-Unis, ça me tente pas. J'avais vraiment aucun intérêt par rapport aux États-Unis. Puis ça tombait qu'il y avait un recruteur de l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick qui est venu dans notre pays. Je pense qu'il a même fait une présentation dans notre classe. Quelques mois plus tard, je débarquais à Moncton. Puis j'avoue que c'était loin de ce que j'imaginais. chez moi, c'est comme beaucoup plus grand qu'ici. Mais sérieusement, ça a été une agréable surprise. Les gens du Nouveau-Brunswick sont super sympas, super accueillants. Je me suis jamais sentie comme regardée bizarrement ou quoi que ce soit. Je me suis fait des amis directement. J'avoue que l'accent au début, c'était super difficile.
Ouais.
L'accent était très lourd. Je me rappelle les premiers cours, j'apprenais les livres par cœur parce que je comprenais rien de ce que les professeurs disaient en classe. Wow. Mais fait que c'est ça, j'ai fait 4 ans à Moncton, mon bachelor en gestion internationale. Je suis venue à Montréal au HEC. La HEC, c'était comme mon école de rêve pour ma maîtrise. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais comme oui, ça me ressemble plus. La ville est super grande. Puis, veux pas, il y avait plus aussi au niveau de la diversité. Je voyais plus de communautés culturelles.
Quand tu parles de toutes ces études-là, est-ce que tu savais en partant de ton pays de dire je m'en vais faire ces études-là pour un but précis ou pour toi c'était de dire je vais m'ouvrir le plus de portes possible? Comment tu te voyais dans ce moment-là?
Ben en fait, c'était vraiment les deux, hein, parce que chez nous, on a vraiment le système, à l'école, on apprenait sur tout dans le monde. Fait qu'en termes de culture générale, on était très, très avancés en termes de culture générale. C'était super important pour eux. Puis ma maman me disait tout le temps, tu sais, le travail, c'est le mari de la femme. Compte pas sur un homme pour quoi que ce soit. Tu sais, t'es assez intelligente pour faire n'importe quoi dans la vie. Concentre-toi tout de suite les études, puis le travail, puis le reste, ça va venir, là.
Mais t'avais pas un emploi en tête quand tu faisais tes études.
Je me voyais, c'était vraiment comme une image de la femme businesswoman. Oui. travail, puis j'avoue que le côté social m'intéressait beaucoup. Moi, mon but, c'était de travailler dans une ONG.
Donc, en finissant la HEC, qu'est-ce qui s'est passé?
Quand j'ai fini la HEC, c'est là que je me suis rendu compte, waouh, le monde du travail est vraiment différent de ce que je pensais.
Les études, ouais.
Oui.
Je pense que c'est le choc pour tout le monde, ça.
Je pense que c'est le choc pour tout le monde parce que j'ai vraiment eu du mal à me trouver un travail dans mon domaine. J'ai directement après ma maîtrise, comme j'ai commencé un travail comme ça s'appelait la Sun Life, puis après ça a été acheté par la Manuville comme expert processing, fait que c'était tellement basique pour moi, c'était comme très temporaire, c'était juste pour rentrer un peu dans le marché du travail. Puis tu sais, j'avais un bureau, fait que je trouvais ça super chic, en me disant que éventuellement je vais monter les échelons pour aller plus dans un domaine qui va plus utiliser mon cerveau, puis
ton potentiel.
Mon potentiel.
Ouais.
Pour faire une histoire courte, ça n'a pas été le cas.
Oui.
Ce qui a été une des raisons pourquoi le blog a commencé, en fait. Pourquoi j'ai commencé à faire un blog, parce que je m'ennuyais tellement, j'étais très déçue de mon travail. En 2012, je pense, comme juste après mon mariage, j'ai décidé de lancer mon blog, en ce moment, qui s'appelait Golden Peony, puis... pivoine dorée.
D'où t'étais venu ce nom-là?
C'était vraiment pour avoir un blog. Puis au début, ma niche n'était vraiment pas définie. J'explorais mon côté créatif.
Ouais.
Je faisais des articles sur les mariages, comment faire des tables de dessert,
okay.
Des bords de mariage, puis tout ce qui est mode et skincare et soin de la peau, ça a vraiment commencé un peu plus tard, quand ça a pris un peu plus d'ampleur. Puis
ouais.
Ça me dit, oh wow, t'sais, comme il y a de l'intérêt.
Est-ce que tu voyais un avenir dans ton blog? Ou parce que, tu sais, on s'entend que c'est vraiment pas facile de se dire, ben j'ai une job 9 à 5, ça paye mon loyer, tout ça, et de se dire, ben mon blog fonctionne, donc let's go, je pars là-dedans.
Oh non, comme la preuve, c'est qu'au début, la plupart des blogs et des youtubeuses ou créatrices de contenu que je suivais, c'était des femmes qui étaient soit aux États-Unis, soit en France, parce que moi, j'avais aucune idée de qu'on pouvait vivre de ça quand je commençais. Avec le temps, quand j'ai commencé à savoir comment il y en avait qui vivaient de ça, combien il y en avait qui se faisaient payer, j'étais comme, attends, je vais peut-être explorer un peu plus.
Oui. Comment ça marche ici, là?
Oui, c'est ça. J'avais aucune idée, puis comme je t'ai dit au départ, j'avais l'impression que au Québec, je trouvais pas vraiment de blog auquel je pouvais m'identifier, ou si j'en trouvais, et peut-être pas des thèmes qui m'intéressaient. Je me rappelle le premier événement où j'ai été invitée. C'était pas une belle expérience, pas du
non?
tout. Je me rappelle, okay. Non, je me rappelle que j'étais revenue à la maison, puis je disais à mon mari, oh my God, c'est un milieu... j'ai pas aimé. Je me suis vraiment plainte, là.
Non, mais tu trouvais que la communauté était difficile à te rallier avec eux, peut-être, à te sentir...
Quand je disais snob, c'était que j'avais vraiment beaucoup de mal à pas socialiser, parce que je trouve que je suis quand même une personne sociable. Quand je sors, j'approche les gens, puis je parle, mais je me rappelle d'expériences pas très agréables, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de clans. J'arrivais à des événements, puis tu sais, j'essayais de m'insérer, puis dire allô, tu sais, j'étais il y a des événements où j'étais la seule noire, fait que tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, on te faisait clairement savoir que oui, allô, mais ça s'arrête là, tu sais, ça va plus loin.
Est-ce que ta vision des médias sociaux, justement, a changé depuis les dernières années, depuis que tu as commencé? Comment tu uses de tes médias, de tes plateformes versus ce que tu faisais avant?
Je suis quand même quelqu'un qui reste très réservé, mais maintenant, je pense que je m'ouvre beaucoup plus.
Ouais.
Pour moi, c'est devenu une communauté. Je me suis fait des amis sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai beaucoup pris et j'ai beaucoup donné aussi. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a beaucoup des points moins intéressants aussi.
Oui. Je trouve ça intéressant que tu dises que tu as une certaine réserve, que tu gardes un certain jardin secret de ton côté sur les médias sociaux. Mais quand même, dans la dernière année, tu sais, je t'ai vu prendre plus position, plus d'informations aussi de l'avant, que ce soit de ton pays, que ce soit de la communauté aussi à travers le monde, ici au Québec. Je te vois prendre ta place finalement. Et pour moi, tu es est vraiment une source d'informations de ce côté-là. Mm-hmm. Tu sais, en tout cas, je me tournais beaucoup, si on parle par exemple du Black Lives Matter, durant ce moment-là, pour moi, je me tournais beaucoup vers toi parce que c'était important pour moi d'avoir des informations pertinentes. Puis je savais que tes plateformes ont toujours été montées dans ce sens. Donc, pour moi, ça faisait du sens, finalement, de te suivre dans ce moment-là. Est-ce que pour toi, quand ça s'est arrivé, Est-ce que tu as décidé de prendre une voie plus grande de ce côté-là ou c'était naturel pour toi, tu le faisais déjà dans ta communauté, de prendre ta place en tant que tu sais, de blogueuse noire, tu disais, t'étais une des premières au début, maintenant vous êtes rendue une belle communauté. Est-ce que tu l'as fait naturellement, tranquillement, ou là tu t'es dit non, là je prends position?
C'est un peu des deux, parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours mis de l'avant ma culture, qui a toujours mis le fait que j'étais super fière d'être africaine, d'être noire. Oui. Et au fil des ans, j'ai beaucoup aimé partager ma culture. Je me rappelle... Quand je suis rentrée il y a 2 ans chez moi, je suis allée au Burkina, puis après on est allée au Sénégal chez mon mari. Puis je n'ai jamais eu autant d'interactions sur mon compte que quand je partageais tout ce que je faisais là-bas. Puis les gens me disaient waouh, on aime ça, on aime comment t'as pas honte, mais comment tu te gênes pas de partager les choses qui te tiennent à cœur.
Ouais.
C'est beau parce que c'est authentique puis c'est vrai. Puis moi j'ai toujours voulu rester comme ça parce que veux pas, les cultures sont différentes, mais c'est ça aussi, apprendre sur l'autre. Il y a des choses que tu vas vraiment être surprise, que tu vas aimer, il y a des choses que peut-être que tu vas moins aimer, mais c'est comme ça la vie. Puis avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je pense que pour moi c'était juste naturel aussi de rendre ça clair que voilà des choses que j'accepte, puis voilà des choses que j'accepte pas. J'ai juste pris peut-être une voie peut-être plus ferme. Comment est-ce que je pense que c'est une question aussi d'éducation, que ça commence dans le cocon familial, puis que pendant 2020, puis ça n'a juste plus aucun sens que ça se passe encore. Il y a plein de tristesse avec tout ce qui s'est passé, mais aussi, je pense que ça, il y a eu aussi plein d'espoir.
Je trouve ça intéressant aussi du fait que dernièrement, tu as vraiment positionné ta plateforme côté luxe, tu t'es mis de l'avant en disant moi j'aime ça, les beaux produits, les vêtements de qualité. Je t'ai vu moi évoluer même au côté la photo. Puis je veux qu'on parle de l'implication de ton mari là-dedans parce que t'as un Instagram husband incroyable en passant.
Le pauvre. Au début, il n'a pas eu le choix, mais maintenant, c'est quelqu'un qui adore la photo, puis il suit des formations sur YouTube, il pratique vraiment, puis maintenant, c'est plus lui qui est plus talent quand on fait la photo.
Pour vrai?
Non, on l'a pas là. Moi, je suis comme, j'ai froid, je suis fatiguée, je veux plus faire ça. Puis il dit que non, on l'a pas la photo. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup aimé le luxe, mais le côté luxueux, je ne l'associe pas forcément que ça soit forcément cher, non. Mais ça peut être aussi la façon de s'habiller, la façon de s'habiller minimaliste. Oui, j'aime investir dans de beaux morceaux qui vont tenir longtemps. Puis pour moi, c'était bien de mettre de l'avant une femme noire qui aime vivre dans le luxe, qui aime les belles choses, qui aime les belles choses, puis qu'il n'y a rien de mal là-dedans que personne va me juger par rapport à ça.
Moi, je vois plus ça de façon que tu peaufines tout ce que tu fais, que tu y vas dans le détail, le fignolage. Tu sais, juste quand on regarde aussi que tu as parti une agence Curl, c'est ça, où tu
crées,
où tu crées des contenus vraiment léchés un peu plus, dans la couleur. C'est plus dans ce sens-là, moi, que je vois le luxe. Que je veux préciser que c'est pas, comme tu dis, du Louis Vuitton et du Chanel. Quoi que on se plaindra pas non plus, si c'est ça. On va toujours...
J'ai aucun problème.
Oui, bonjour Chanel. pour toi, c'était aussi important de partir de cette agence-là.
Oui, c'était important parce que ça faisait un bout que mon mari et moi on discutait, puis on était comme, comment est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble, puis comme un peu faire un autre bébé. Fait qu'en fait, Cœur, ça veut dire maison en Wolof, qui est la langue nationale du Sénégal, de là où mon mari vient. Puis Loulé, en fait, c'est un mélange des noms de nos fils, Lucas et Lévi. C'était vraiment parce qu'on se faisait aussi beaucoup approcher par des compagnies, faire des photos pour d'autres personnes, aider les gens au niveau de un peu du branding. C'est vraiment ça. Puis on t'est dit, mais là, on va juste comme partir notre entreprise, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là.
Est-ce que c'était pour aider aussi les communautés à se démarquer sur les médias sociaux?
Oui. Oui, c'était vraiment ça aussi, parce que, tu sais, je me faisais beaucoup approcher au niveau de... J'avais plein de questions. Comment est-ce que tu fais tes photos? Comment tu penses au concept pour tes photos? Puis là, on s'est dit, mais ce serait bien de faire une agence où aussi, nous, pour nous aussi, ça nous permettrait de sortir dans le cadre de mon blog à moi. Faire du travail pour... pas juste faire du travail pour les contenus sponsorisés que j'ai, mais vraiment... explorer d'autres avenues aussi.
Tu te sers aussi, j'imagine, de cette agence-là pour créer le contenu de ta plateforme mode où tu vas chercher des éléments, des foulards. On s'entend que c'est différent que de se dire, ben, je pars une compagnie de t-shirts, par exemple. Toi, tu mets d'avant vraiment des items et tu les ramènes ici au Québec. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Ben, en fait, ça, c'est la boutique en ligne Maison Petite and Bold.
Oui.
que j'ai lancé en 2017. Puis c'est moi seule qui suis la propriétaire. Pour moi, c'est un petit rêve qui est devenu réalité parce que c'était vraiment de mettre de l'avant l'artisanat ouest-africain et on espère comme étendre un peu plus parce que là, on commence avec l'Afrique de l'Ouest, mais on espère étendre avec d'autres pays africains. Mais c'était vraiment de mettre de l'avant le savoir-faire des artisans, fait que partager au fond la culture africaine et faire découvrir ça par d'autres communautés. Fait que par exemple, sur Maison Petite and Bold, il y a des foulards qui sont faits avec du wax, des paniers qui sont faits à la main au Sénégal par des artisans. Fait que c'était vraiment, tu sais, le travail à la main. D'une part, c'était vraiment d'être comme une vitrine de l'artisanat africain au Canada, puis un peu partout dans le monde, parce qu'on livre partout dans le monde.
Ah, OK.
Et c'était aussi... Les partenariats avec les artisans qui me tenaient à cœur. Parce que ce sont des personnes qui travaillent tellement, tellement fort. La plupart du temps, c'est le travail qu'ils font pour nourrir leur famille. Fait que c'est super important pour eux d'avoir une source de revenus. Puis pour moi, je me disais, tu sais, je ne suis pas comme Mère Teresa, là, je ne viens pas les sauver. Mais ça, c'est devenu comme une source de revenus constante pour eux. Tu vois, parce qu'on établit une belle relation, puis après, tu sais, je vais continuer à commander si les items marchent très bien, ça se vend bien. Mais je continue à commander avec les mêmes personnes. C'est vraiment une belle relation qu'on développe avec les artisans. Tu sais, on s'écrit sur WhatsApp, on s'envoie des photos. Par exemple, les boucles d'oreilles que je porte, qu'elles ne peuvent pas voir, là, mais c'est disponible sur les boucles
d'oreilles.
C'est moi qui fais comme le design à la main, puis j'ai suis entrée en contact avec l'artisan qui a travaillé ça avec de l'argent.
Parce que c'est pas facile non plus pour des artisans de se démarquer en dehors de leur place. Ils n'ont pas nécessairement la force de se dire, bon, ben oui, je fais peut-être un produit de qualité, mais comment je fais pour m'extérioriser tout ce que je fais?
C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Au Burkina Faso, c'est pas le petit artisan qui peut se permettre d'avoir un site web déjà.
Oui.
De savoir prendre de belles photos pour mettre de l'avant ces bijoux. La plupart du temps, ça reste très local.
C'est
vraiment comme une ouverture à l'international. C'est vraiment ça que je voulais.
Comment tu fais pour les trouver? Parce que tu ne vas pas sur place nécessairement pour aller voir leurs produits.
Ben, heureusement, j'ai de la famille.
Ah! C'est les autres qui testent.
C'est ça la belle chose d'être deux nationalités. C'est que, par exemple, au Burkina, il y a beaucoup ma maman qui m'aide. Mon papa aussi, il m'aidait beaucoup. Comme par exemple, j'ai de la famille, des cousines. Au Sénégal, c'est la sœur de mon mari qui est comme devenue l'intermédiaire. Avec la technologie d'aujourd'hui, je peux parler n'importe quand, n'importe qui. C'est vraiment comme ça que ça marche par des intermédiaires, mais des gens à qui j'ai confiance puis que je sais que ça va aboutir, là.
J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Mais là, Josiane, il faut que tu me dises ton secret. Parce que là, tout ce que tu fais en ce moment, plus là, tu as commencé à faire des Reels quand même pas mal sur Instagram. Tu fais tellement du contenu de qualité. Et je m'excuse, mais premièrement, tu as deux enfants, mais ton bébé a quel âge?
Il a 7 mois.
OK. Fait que là, dis-moi.
J'ai aucune idée, sérieusement.
OK.
Je pense qu'au début, parce que mon mari, ben, vu que moi techniquement, je n'ai pas eu de congé de maternité.
Non.
Fait que mon mari est resté beaucoup plus longtemps sur le congé parental. Fait qu'au début, ça m'aidait beaucoup. Là, il est reparti au travail. Puis j'avoue que mes journées, à la fin de la journée, je m'arrache les cheveux. Là, parce que
j'imagine.
Je ne peux pas y arriver. Fait que, par exemple, les fins de semaine, j'essaie de condenser le contenu que je fais. Puis, OK. Vu qu'il est là, il peut tenir le bébé pendant un bon bout de temps, puis je peux mais je pense que maintenant, je suis beaucoup plus organisée qu'avant, parce que veux pas, il n'y a pas le choix. Fait que, tu sais, je prépare à l'avance, j'ai des idées. Par exemple, pour les Reels, tu sais, j'y pense quelques jours à l'avance. Ça va être tel look. Et puis, comme dès que je me lève le matin, c'est vraiment prendre soin de la famille, on prend notre petit déjeuner ensemble. Puis après ça, mon plus grand, lui, c'est comme un ado maintenant. Il a 6 ans, mais c'est comme un ado. Les enfants, ça pousse tellement vite, ça fait des choses, il se débrouille tout seul. Tu sais, Sophie, toi aussi, tu fais beaucoup de choses là, je te vois. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, quand tu as un petit temps, tu fais
tout. Oui, c'est ça.
Puis après ça, on n'est pas des superwomen non plus.
Non, mais des fois, on a l'impression qu'il faudrait l'être. Mais en même temps, je pense que le temps nous apprend aussi qu'il faut se calmer un peu, puis que c'est pas nécessairement de dire d'être toujours là partout, c'est pas nécessairement gagnant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai.
Non.
De se concentrer sur la qualité des choses qu'on fait, je pense que c'est ça qui est le plus important.
Exactement. C'est être contente avec ce qu'on produit. Je pense que c'est l'essentiel, parce que ça m'est arrivé de faire du contenu que j'ai jamais publié parce que je me suis dit non, ça me ressemble vraiment pas.
Ouais.
C'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas quelque chose que je publierais. Surtout, tu vois, comme tu l'as dit, je suis très portée très visuelle sur Instagram, mais je garde mes stories très vraies, très au jour le jour, parce que justement, je veux pas que les gens se disent « Oh my God, son compte est vraiment très bien travaillé. Est-ce qu'on peut voir c'est qui la personne en arrière? »
Est-ce que tu as l'impression là, que là, en ce moment, tu fais ce que tu veux, ou il y a plein d'autres choses qui bouillonnent en toi puis tu dis « Ok, non, j'ai 30 000 autres idées.
» Mais comme actuellement, je travaille sur un projet secret que je peux pas encore.
Non, ben là, ça, c'est pas correct, ça. Dans le même genre de ce que tu fais, ou complètement?
Non, dans le même genre. Je pense que quand le projet va prendre vie, les gens ne seront pas surpris non plus.
OK.
Mais oui, ça va rester comme, tu sais, dans ce que je fais, là.
J'essaie de s'étirer les informations.
Mais comme tu dis, je pense que je suis vraiment sur mon X. Comme je pense que j'ai jamais été autant épanouie au niveau professionnel, entre guillemets, et même au niveau personnel. J'essaie beaucoup de pas me comparer, parce que oui, est-ce que j'aurais aimé être à une autre étape actuellement? Oui, peut-être, comme sur d'autres points, peut-être plus personnel, mais j'essaie de pas me comparer, puis je me dis toute chose vient en son temps.
Non, je me demandais qu'est-ce que tu voulais dire par là, t'aurais aimé être ailleurs.
Oui, tu sais, comme les petites choses qu'on aime se fixer là, tu sais, quand je vais, avant d'avoir tel âge, je veux avoir tel genre de maison ou quelque chose comme ça.
Oui.
C'est vraiment plus des petites choses banales.
Oui.
Au final.
Oui. Le support de ton mari doit être important aussi.
Oui.
De savoir qu'il est on board avec toutes tes idées. Oui.
Oui, il est très on board. Moi, je suis une personne qui est super fonceuse dans la vie. Quand j'ai une idée, je veux concrétiser, puis je ne suis pas super patiente non plus. Puis lui, j'ai l'impression que c'est vraiment la balance, parce que souvent, je suis là, puis je fonce, puis il me dit prends ton temps, tu sais. Oui. Prends ton temps, calme-toi. Souvent, le week-end, il me dit « tu rushes trop le week-end ». C'est pour ça que il me dit « t'es tout le temps fatiguée ». Souvent, t'es sur les nerfs. Comme, prends du temps, calme-toi, puis t'es comme le monde t'attendra, entre guillemets.
Ouais.
Et ça prend du temps, puis on a dû s'ajuster beaucoup au niveau financier les premières années. Mm-hmm. Puis, tu sais, je suis sincère avec toi, 2020, ça a été... Ça a été une année beaucoup difficile pour beaucoup de gens, au niveau émotionnel, etc. Mais pour moi, au niveau de la création de contenu, au niveau de de ce que je fais, c'est comme ma meilleure année.
Ah oui?
Vraiment.
Parce que j'étais pour te demander, je me disais, est-ce que ça t'a gelé côté créatif ou ça non. t'a...
Non.
Ah oui?
Vraiment ma meilleure année côté créatif. J'ai l'impression que ça m'a beaucoup affecté tout ce qui se passait. Il y a des jours où je dormais à peine, je me réveillais. Ouais. J'étais fâchée avec ce qui se passait dans le monde. Je me disais, mais comment est-ce que les gens sont comme ça dans le monde? Tu sais, tu ouais. te poses plein de questions. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est une année qui m'a beaucoup ouvert, comme il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes pour moi. J'ai eu plein d'opportunités au niveau du travail que je suis vraiment super reconnaissante aux entreprises qui me font confiance, aux agences ouais. qui me font confiance.
Ouais.
Mais comme pour moi, c'est comme vraiment ma meilleure année à date.
Mais j'aimerais quand même dire que c'est aussi l'aboutissement, Josiane, du travail acharné que tu fais depuis des années. Je pense que cette année, tu t'es positionné avant même que tout le chamboulement arrive dans la qualité de ce que tu faisais. Mm-hmm. Puis là, finalement, tu t'es juste encore plus installé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu de tes plateformes dans ton année. Ça ne me surprend pas parce que je me dis, c'est vraiment et sincèrement super beau ce que tu fais. Et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui devraient te regarder. Parce que tu es un exemple pour au niveau de la qualité du contenu et une façon de te démarquer aussi, de trouver ta niche, trouver ta voix. En tout cas, moi, je trouve que tu l'as trouvé. Fait que, tu sais, en même temps, je pense que c'est toutes ces choses-là qui sont arrivées pour que tu sois capable de dire ça aussi. Que c'est,
Exactement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'acharnement, beaucoup de pas se laisser abattre non plus.
Oui.
Parce que tu sais aussi, là, c'est peut-être que toi, t'es moins active par rapport à la création de contenu que de nous autres. Mais souvent, ça me... la comparaison, là, qu'on dit, c'est vraiment... Comparison is the thief of joy.
Mm-hmm.
Moi, ça m'arrive beaucoup, là, tu sais, les gens se disent peut-être pas ça, peut-être parce que j'en parle pas assez, mais ça m'arrive de me dire, mais, tu sais, pourquoi est-ce que X personnes, sa communauté est en train d'exploser, puis toi, t'es là, tu travailles fort, puis t'as l'impression que ça décolle pas assez vite, ou pas aussi vite que tu l'aimerais, mais j'ai appris à pouvoir me recentrer à chaque fois que ce genre de choses-là m'arrive. Je pense que c'est complètement une sensation complètement normale de voir des choses puis se dire, se questionner. Mais je pense que c'est encore plus important de savoir se recentrer puis se dire que vous n'êtes pas sur la même ligne, là. La personne va plus vite, mais peut-être que le but en avant, c'est pas du tout la même
c'est
chose.
C'est pas la même chose.
Exactement. Ouais. Concentre-toi sur toi, puis les choses vont venir avec le temps.
Oui. Mais tu sais, pour être honnête avec toi, Josiane, moi, dans les dernières années, mais je pense que depuis que j'ai eu Massimo, au départ, je pense que c'était l'adrénaline de tout ce qui se passait de nouveau dans ma vie. Là, je m'impliquais à fond sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai lâché un peu à cause de ce problème-là de comparaison.
Oui.
J'étais épuisée, puis plus j'étais épuisée, plus tout ça me faisait vraiment mal. Oui. Puis j'étais comme, mais c'est en train de gruger quelque chose que j'ai pas le goût, j'ai pas besoin. Oui. Puis moi, ça a fait que ça a gelé ma créativité, ça a gelé beaucoup de choses au niveau des plateformes parce que la comparaison me faisait mal, mais aussi parce que justement, j'étais comme, voyons, le résultat, qu'est-ce que je veux vraiment? En tout cas, moi, j'ai eu un méga, méga questionnement de ce côté-là. Puis ça m'a amené à me dire, ben le podcast et le livre que je fais. Moi, je vais finir parce que j'ai lu une entrevue dernièrement, je pense que c'était pour le L Québec, où tu parlais un peu de tes fils. Puis ça m'a amené vraiment à me questionner, comment tu veux que tes fils te voient quand ils grandissent?
Ça, c'est une bonne question parce que comme je suis très proche de mes enfants, puis ben comme... Le petit, c'est normal, là, mais Lucas, mon plus grand, je suis littéralement, sa meilleure amie, là, il me dit tout, puis c'est une relation que je chéris beaucoup, puis je reste vraie avec lui. Lucas, il m'a déjà vu pleurer, il est venu demander, mais maman, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as, puis tu sais, je lui dis les choses, bien sûr, des choses que des enfants peuvent entendre, là, tu sais, je le stresse pas non plus, mais je pense que c'est bien pour les enfants de voir les parents comme ils sont, De voir des parents vulnérables, de voir des parents qui sont battants. Parce que moi, il y a plein de choses que je fais en ce moment. C'est vraiment pour mes enfants, pour les léguer quelque chose plus tard pour eux, quand je serai plus vieille ou quand je serai plus là. T'sais, je veux qu'ils se disent, oh, ma maman, elle est forte, mais elle est vulnérable aussi. J'ai déjà vu ma maman ne pas être bien. Puis, c'est pas la fin du monde. Ça veut pas dire que ça va pas aller demain. Je veux pas que mon enfant pense que je suis une super superwoman puis que je peux tout faire dans ce monde-là parce que c'est juste impossible. Puis je pense que c'est vraiment leur montrer c'est quoi la vraie vie. C'est quoi les choses qui comptent vraiment. On les éduque, vraiment avec beaucoup avec beaucoup de nos valeurs africaines, notre culture africaine, parce que c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur, mais en même temps c'est ça, on veut que nos enfants nous voient, mais des personnes qui font tout dans leur vie pour avoir ce qu'ils veulent un peu.
Oui, oui. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton fils la première fois qu'il va dire « Maman, je pars mon compte Instagram ». Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Ça dépend à quel âge déjà.
Oui, c'est ça.
Parce que même à cet âge, 6 ans, Lucas, il sait c'est quoi TikTok, il sait c'est quoi Instagram.
Oui.
Followers. Parce que veut pas, même si c'est des choses que auxquelles on l'expose pas ici, ben il a des amis à l'école là, puis il y a plein de conversations.
Oui, c'est ça.
Il revient, puis il nous dit des choses que t'es comme ça, c'est pas la raison qu'on a fait ça. Ça dépend de l'âge. Moi, je pense que je dirais pas non, mais c'est sûr que par exemple, je vais suivre de très près, genre j'aurai ton mot de passe, je veux savoir. Passe parce que je pense que ça peut être très dangereux quand c'est pas suivi de près les réseaux sociaux. C'est sûr que je vais être une maman comme qui va être comme mal âgée là pour voir qu'est-ce que tu postes. parce que je trouve que c'est très ça peut dégénérer très rapidement.
Ouais.
C'est que c'est ça plus le plus tard possible.
Puis quand ça va arriver, on va faire attention. Je sais que tu ne peux pas me parler du projet sur lequel tu travailles, mais est-ce qu'on peut savoir un peu quand est-ce que ça va sortir? Quand est-ce qu'on va avoir une idée?
Oui, printemps-été 2021.
Wow! Donc, oui. c'est j'imagine que c'est gros pour que ça prenne autant de temps, dans le sens que ça...
C'est gros, surtout financièrement. Fait que je prends vraiment mon temps. J'ai même des investisseurs, entre guillemets. Mais comme, pas guillemets, des investisseurs. fait que des gens qui m'aident, tu sais, côté financier, parce que c'est pas quelque chose que je peux supporter à moi, toute seule.
En terminant, je veux savoir pour toi, Josiane, qu'est-ce que ça veut dire « femme de fer » ?
T'sais, comme faire, ça a l'air d'être vraiment une femme dure, une femme battante. Mais moi, je pense que c'est un peu un mix des deux quant à, en tout cas, ce que j'ai compris. Puis les entrevues que je t'ai vues faire, c'est avec des femmes qui sont très vulnérables. Par exemple, j'ai beaucoup aimé l'entrevue que tu avais faite avec Joanie.
Oui.
Joanie.
Pietracupa.
Puis je pense que c'est vraiment. Vraiment ça, tu vas avec des femmes qui, pour toi, sont comme un exemple, en fait, pour d'autres femmes. Et c'est pas juste dans le domaine que, oui, ce sont des femmes qui sont travaillantes, qui travaillent, qui sont battantes, qui foncent dans la vie. Il n'y a pas juste ça, mais c'est parce que aussi, je pense que tu vas avec des femmes qui sont vraies, auxquelles on peut s'identifier dans la vie.
Oui, oui.
Je pense que c'est vraiment ça.
Absolument. Ben, en fait, c'est pour ça que je t'ai choisie, Josiane. Ça va dans la lignée de ce que tu dis. Pour savoir comment te contacter, c'est quoi la meilleure façon?
Ben, mon email, aussi sur Instagram. Je suis très sur Instagram, c'est Petite and Bold sur Instagram. Puis sur mon site web, josianecolaté.com, il y a comme tout des onglets là pour me contacter par email. Tout est déjà là-bas, déjà établi, fait que oui.
Parfait, génial. Merci beaucoup, Josiane, d'avoir pris le temps avec un petit bébé là, qui t'attend, j'imagine. Je sais que ça prend du temps dans ta journée.
J'étais vraiment super contente quand tu m'as contactée. J'étais comme, waouh, je fais partie du podcast de Sophie, d'accord? Fait que vraiment super contente. Je me sens super honorée. Puis ça me fait vraiment plaisir.
Merci, Josiane.
Merci.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspiré pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.